Bonjour à tous. En effet, je m'appelle Samuel, je suis l'un des pasteurs ici et c'est une joie de vous retrouver, autant ici que ceux qui suivent en effet à la maison par vidéo. Je vous invite ce matin à chercher avec moi le livre de Ruth dans l'Ancien Testament, c'est après les Juges. Et ce Noël, ce mois de décembre, nous allons regarder ensemble ce que plusieurs ont appelé la parfaite petite histoire de la Bible. C'est l'histoire de Ruth. C'est une histoire d'amour, mais pas de l'amour hollywoodien, pas de l'amour romancé. C'est une histoire de femmes où les femmes jouent les rôles principaux, mais les hommes ont tout à apprendre dans ce livre. C'est une histoire de Noël aussi, parce qu'elle établit le lien avec Bethléem et la naissance de David et ensuite la naissance de Jésus. Et puis c'est une histoire qui se déroule pendant un temps difficile pour le peuple, pas une pandémie, mais une famine. Et malgré cela, c'est une histoire de rédemption, d'espérance, comme nous en avons encore besoin aujourd'hui. Donc je vous invite à lire avec moi Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Mahlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Mahlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses deux belles-filles. Elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec Amaï et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. » De ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là, Naomi ? » Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi? Parce que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé. » Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Ici, Naomi exprime bien notre dilemme, une difficulté dans la vie. Elle dit en verset 8 « Que l'Éternel use de bonté envers vous. » Mais puis en verset 13 et en verset 21, elle dit « L'Éternel s'est prononcé contre moi. L'Éternel s'est étendu contre moi. » Naomi, son nom qui veut dire beauté, douceur, elle dit « Appelez-moi Mara, amertume. » Elle sait que Dieu est bon, que l'Éternel use de bonté envers vous. Elle peut le prier, elle peut le souhaiter à ses belles filles. Mais dans sa situation, elle ne le voit pas, forcément. En tout cas, elle dit que l'Éternel est contre moi. L'Éternel est bon, mais il est contre moi. Un des mots-clés de ce livre, comme nous avons déjà évoqué ce matin, c'est la bonté. C'est ce qu'elle dit là, que l'Éternel use de bonté envers vous. Verset 8, ce mot en hébreu, « Essed », c'est un mot-clé du livre, c'est même un mot-clé de tout l'Ancien Testament, et on pourrait dire de toute la Bible. Le mot est traduit de manière différente, à la fois « miséricorde », parfois « compassion ». Mais il y a cette idée de bonté, mais une bonté forte, une bonté loyale, une bonté fidèle, une bonté qui ne lâche pas. Alors on va parler de cette bonté ce matin, comme nous l'avons chanté, mais on veut reconnaître, si on regarde la vie de Naomi, on veut reconnaître que ce n'est pas un sujet si évident que ça. Dieu est-il bon en tout temps? Les chrétiens savent, comme Naomi, qu'il faut dire oui, et on est prêt à le dire dans nos prières. Mais avouons que nous avons du mal à le croire par moment. Dieu est bon, mais là, il est contre moi. Et tellement, c'est une question qui revient souvent dans la vie, autant pour les chrétiens que pour les non-chrétiens, beaucoup qui ne croient pas en Dieu parce que n'étant pas convaincus de sa bonté quand ils regardent le monde autour ou leur vie personnelle. Tellement, c'est une question qui revient souvent dans la vie, que Dieu nous a donné de nombreuses histoires dans la Bible pour nous aider à naviguer ces moments sombres. Donc, des histoires comme Ruth, mais aussi Esther et Job et Joseph et Rahab et toutes ces choses. Je ne sais pas si vous avez un auteur que vous aimez lire, qui a écrit plusieurs livres, que ce soit des bandes dessinées ou des romans. Vous aimez lire un auteur, quand il sort un nouveau livre, vous le prenez à la bibliothèque ou à la librairie. Et vous savez, après avoir lu plusieurs livres du même auteur, chaque auteur a un peu son style, on n'y échappe pas. Et après avoir lu plusieurs histoires, vous commencez à reconnaître son style, vous reconnaissez sa signature, c'est une des raisons que vous aimez lire. Vous commencez peut-être même à pouvoir deviner la fin de l'histoire, même si chaque histoire est différente, vous ne savez pas tout à fait comment ça va se terminer, mais cet auteur que vous aimez, vous arrivez à deviner un peu comment ça va se terminer. Eh bien, c'est ça dans la Bible, Dieu nous donne plusieurs histoires, dans Ruth, pour nous aider à deviner la fin de notre histoire. Même si lorsque c'est notre tour d'être le personnage principal, d'être dans le malheur, d'être dans l'inconnu de l'avenir, c'est difficile. Mais à force de lire ces histoires, à force de les connaître, les aimer, vous allez pouvoir deviner aussi la fin de votre histoire. Et nous allons voir ce matin que lorsque son peuple, lorsque ses bien-aimés sont sans force, sans secours, Dieu aime montrer sa bonté. Alors pour mieux comprendre cette bonté, nous allons voir les trois scènes distinctes de ce premier chapitre. Tout d'abord, un départ douloureux à Moab. Ensuite, on verra un carrefour déterminant sur le chemin du retour. Et enfin, on verra une arrivée amère. Et ces scènes vont nous aider à mieux comprendre la bonté de Dieu dans notre vie. Voyons tout d'abord un départ douloureux. Les premiers versets, versets 1 à 5, décrivent une descente aux enfers pour cette famille. Chaque verset contient quelque chose de malheureux, quelque chose de douloureux, quelque chose de mal. Verset 1, par exemple, ça commence du temps des juges. Déjà, ça commence mal. Le temps des juges, c'était une mauvaise période dans la vie d'Israël, beaucoup de désobéissance. Le livre des juges termine avec deux histoires particulièrement sordides et douloureuses, avec vol et viol et meurtre et idolâtrie. Et ces deux histoires, d'ailleurs, toutes deux commencent à Bethléem ou passent par Bethléem. Donc, c'est un temps difficile, avec beaucoup de péchés, de désobéissance, un peuple loin de Dieu, déjà, et ont pris son départ par rapport à Dieu. Donc, y compris à Bethléem. Donc, cette famille n'échappe pas à ça. En plus, le verset dit, il y eut une famine dans le pays. Donc, déjà un temps difficile, et maintenant c'est encore pire, une famine. Et sachant que ça se passe au temps du livre des juges, quand on lit les juges, on apprend à savoir que les malheurs, les fléaux qui frappent le pays sont justement le jugement de Dieu contre son peuple qui devait vivre selon la loi de Moïse, qui devait habiter le pays. Mais rapidement, comme vous connaissez ce cycle dans le livre des juges, le peuple s'éloignait de Dieu. Et du coup, les malheurs arrivaient, comme des jugements, des famines, des ennemis autour, dominaient le peuple. Et ici, c'est quand même curieux, ça semble une famine localisée, puisque le pays voisin, Moab, c'est juste à côté, il n'y a pas de famine. Donc si la famine frappe uniquement Juda et Israël, on peut supposer que c'est aussi un jugement de Dieu. Mais le comble, c'est que ça se passe à Bethléem. Et je vous avertis que les mots, les prénoms et les mots ont beaucoup d'importance dans cette petite histoire, le sens des prénoms, le sens des mots. Donc Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Donc quand il y a une famine à la maison du pain, c'est vraiment le comble du malheur. Alors ils sont partis ensuite, ça dit, au pays de Moab. Là encore, c'est pas top. Dans la pensée des premiers auditeurs de cette histoire, ça encore, c'est malheureux. Moab n'était pas un allié, un ami d'Israël. Si quelqu'un en France déménage en Espagne, voilà, on est content pour lui, plutôt, il retrouve un peu plus de soleil. Mais quand quelqu'un d'Israël déménage à Moab, là, c'est pas bien vu. Moab, ils sont hostiles à Israël. C'est un peuple avec des origines incestueuses. Donc, devoir partir à Moab, quitter cet héritage, vous vous souvenez, Josué a reparti de pays promis, donc quitter le pays promis pour aller habiter dans un pays ennemi, là encore, c'est mauvaise nouvelle. Donc voilà cet homme, Élimélec, qui va embarquer sa famille, et finalement il va abandonner ses terres, il va abandonner son héritage de l'Éternel, il va abandonner sa patrie, pour chercher une solution à cette famine dans un pays païen. Mais déjà, ça ne semble pas témoigner d'une grande démarche de foi. Et encore, tout comme Bethléem, il y a une ironie, Bethléem, maison du pain, il n'y a pas de pain. Élimélec, son nom, ça veut dire Dieu est mon roi. Mais la manière qu'il conduit sa famille laisse entendre si vraiment Dieu est son roi. A priori, c'est une famille qui a quand même des moyens. Naomi, à la fin, dit je suis parti dans l'abondance. Plus tard, on va apprendre que pour racheter les terres de Naomi, il faut être riche. Donc, c'est une famille qui avait des moyens. Déjà, c'est un luxe de pouvoir partir, s'exiler des fois, quand certains ne peuvent même pas partir, quand on peut partir dans un autre pays, quand il y a une difficulté. Il y a peut-être des moyens. Mais au lieu de montrer une solidarité avec son peuple, une foi en Dieu, il y a un thème qui revient dans la Bible, c'est pas toujours la solution de Dieu de quitter le pays pour aller chercher ailleurs quand il y a une famine. Mais cet homme et sa famille, ils vont partir au lieu de montrer une loyauté envers sa ville, son peuple, sa patrie, son Dieu. Même dans les temps difficiles, ils cherchent une solution ailleurs. Et donc cet Élimélec qui ne semble pas animé du même esprit de Josué, vous vous souvenez quand il dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Élimélec dit plutôt « Moi et ma maison, nous partons à Moab pour trouver des solutions là-bas ». Mais Moab, c'est s'éloigner aussi du temple, c'est s'éloigner du culte, c'est s'éloigner des frères, ce qui est un départ difficile. Et là, on voit bien qu'une fois qu'il est en pays de Moab, avec ses fils, forcément, elles vont chercher à se marier, et elles vont épouser des filles moabites, dit le verset suivant. Et là encore, la loi de Moïse, en Deutéronome 23, on apprend que les moabites étaient exclus de l'assemblée, en tout cas les mâles, étaient exclus de l'assemblée de Dieu jusqu'à 10 générations à cause de la manière qu'ils ont traité le peuple de Dieu à l'époque. Et bien plus tard, je lisais ça dans ma lecture cette semaine, Esdras, ça c'est bien plus tard, mais il va déplorer que des hommes Israélites ont épousé des femmes païennes, des Moabites. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est pas l'angoisse, c'est pas bien vu d'épouser, voilà, pour les Juifs, d'épouser les païennes, notamment les Moabites. Tout ça, ça nous fait réfléchir aussi sur notre manière de nous conduire. On est interpellé en tant que mari, père, chef de famille. Il faut savoir que là où on embarque notre famille, là où on conduit notre famille, l'entourage que nous choisissons pour notre famille aura certainement un impact, des conséquences. S'il déménage sa famille en terre païenne, c'est probablement en terre païenne, ses fils vont épouser des païens. Et le comble, là encore, verset 3, c'est que Élimélec meurt. Il a essayé de fuir la famille pour avoir la vie sauve, mais ce plan n'a pas trop marché non plus. Et pour Naomi, ce n'est même pas la fin des douleurs. Donc, ils vont être là, à Moab, et ça n'apparaît peut-être pas fort là, mais quand Ruth et Orpa, ses belles-filles, reviennent avec elles, on apprend qu'ils n'ont pas d'enfants. Donc, ils sont là 10 ans, sans enfants. Pour les deux couples, pas d'enfants sur 10 ans. Donc là, c'est encore une épreuve douloureuse, certainement, pour Naomi, de ne pas voir des enfants, des petits-enfants. Et enfin, Naomi perd en plus ses deux fils, Maclon, c'était lui qui était mari de Ruth, et puis Kiljon. Elle a encore les prénoms importants et on a du mal à comprendre que Élimélec ait appelé ses fils Maclon et Kiljon parce que l'un veut dire malade et l'autre ça veut dire sans force. Donc ce jour-là, il était pas bien, ou bien sa vie dans l'ensemble n'était pas bien, ou l'accouchement était difficile, ou quelque chose, les douleurs le frappent, donc il appelle ses fils malades et sans force. Avenir prometteur. Donc voilà le bilan dans ce départ douloureux à Moab. Dans ces 5 versets, il n'y a rien de bon. Et on arrive à une veuve exilée, endeuillée, triplement endeuillée, ruinée et seule sans avenir. Ça, c'est Naomi. Une veuve exilée dans une terre hostile, endeuillée, perdue son mari et ses deux fils. Ruiné, la situation des veuves à l'époque était catastrophique, maintenant c'est une question de survie, et puis seule, sans avenir. Alors Naomi, quelle est sa conception maintenant de la bonté de Dieu? Et vous, quelle est votre conception après tout ça de la bonté de Dieu? Ça va poser le décor de ce livre. Mais nous allons avancer dans le texte et voir ce carrefour déterminant qui va nous aider à donner une lueur d'espoir aussi. Elle apprend en verset 6 que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Donc elle décide de rentrer à Bethléem avec ses deux belles-filles, toutes deux veuves aussi, et elles veulent bien l'accompagner. Donc notez que toutes les trois font un bout de chemin ensemble. Toutes les trois quittent, se mettent sur le chemin du retour vers Bethléem. Et puis, elles arrivent à un carrefour, peut-être la frontière entre Moab et Israël, et Juda, ou bien un rond-point où enfin on voit la flèche vers Bethléem. Et là, ils s'arrêtent. Et on a la scène déterminante du chapitre entre Orpa, Ruth et Naomi. Jusque-là, vous pouvez voir que toutes les deux ont manifesté une certaine bonté envers Naomi. Elle le reconnaît, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Verset 8. Et puis, elle les encourage quand même à rentrer chez elle, avec un avenir certainement meilleur en Moab, leur famille, leurs amis, une possibilité de se remarier. Mais toutes les deux encore désirent être loyales à Naomi et au souvenir de leur mari. Alors toutes les deux pleurent, verset 10. Toutes les deux disent vouloir continuer avec Naomi. Non, nous irons avec toi, vers ton peuple. malgré l'insistance de Naomi à rentrer. Mais c'est là qu'on arrive à ce carrefour de décision, ce carrefour déterminant, et les deux filles, à ce moment, Orpa et Ruth, se distinguent. Et ça va aussi nous aider à comprendre la vraie bonté fidèle, la vraie bonté loyale que nous trouvons en Dieu. Alors, à force d'insister, Naomi, retournez mes filles, Orpa choisit la vie normale. Elle choisit la vie qu'elle connaît. Elle choisit de rentrer chez elle, choisit ses amis, choisit la possibilité de se remarier tranquillement. Et c'est un choix logique. Dans un sens, on ne peut pas lui reprocher. Naomi l'encourage. C'est un choix normal. C'est un choix qui vise son bonheur personnel, son développement personnel. Tous les conseillers de nos jours seraient d'accord. Les psychologues, oui. Voilà ce que tu devrais faire. Mais Naomi voit plus loin quand même, et ça nous aide à comprendre aussi ce choix de Orpa. Verset 15, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. C'était aussi un choix basé sur les croyances, un choix religieux, un choix familier vers ses dieux qu'elle connaissait. Elle est retournée vers son pays pour aussi retrouver ses dieux. Par contre, Ruth, et c'est là nous avons une des plus belles expressions de la foi et de l'engagement dans toute la Bible, en versets 16 et 17, elle ne veut pas retourner vers ses anciens dieux, son ancien peuple. Elle dit, vous avez vu ça en verset 14, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Là, on pourrait dire, Ruth se convertit, en quelque sorte, elle se convertit au Dieu d'Israël, elle se convertit au Dieu de la Bible, elle se convertit au Dieu de Naomi. On a vu Rahab, une autre païenne. D'ailleurs, Rahab, qui est, en quelque sorte, va être la future arrière-belle-mère de Ruth, elles vont être liées dans la lignée messianique. Rahab aussi, païenne, avait vu, entendu parler de ce Dieu des Juifs. Et elle, par la foi, accueillit les espions parce qu'elle a appris à connaître ce Dieu bon. Donc, plus tard, on va reconnaître que Ruth, en revenant avec Naomi, elle fait le choix de se réfugier sous les ailes du Dieu d'Israël. C'est le verset qui dit, elle choisit de se réfugier sous les ailes du Dieu d'Israël. Donc, elle aussi, c'est un choix de foi, un choix qui émane de sa croyance, de quel Dieu va diriger ma vie. Et quand on étudie un peu la Bible, l'histoire, c'est vrai qu'on fait connaissance un peu avec les dieux moabites. Ils ont des noms, Chemosh et Baal, Peor, tout ça. Vous lisez ça dans l'Ancien Testament, mais vous apprenez que ces dieux-là, c'est des dieux cruels, c'est des dieux sensuels. Le culte à ces dieux peut être même violent, sacrifier ses enfants, des orgies. Tout ça, voilà ce que ces dieux demandent. Ces dieux qui sont indifférents au sort des hommes. Ces dieux qui ne célèbrent pas leur bonté, leur fidélité. C'est plutôt, c'est comme nos idoles modernes de l'argent, du sexe. Mais Ruth ne veut pas retourner vers ces dieux-là. Elle veut rester fidèle à Naomi, montrer la bonté envers elle. Donc vous voyez, Ruth, à ce carrefour déterminant de sa vie, elle choisit la voie de la bonté loyale, la bonté fidèle. Et elle-même, en s'attachant à Naomi, elle montre elle-même ce trait de Dieu, ce trait de la bonté fidèle, la bonté loyale, la bonté hyper loyale qui accompagne jusqu'au bout. Même elle dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est le langage qu'on va trouver dans les vœux, les promesses de mariage, dans ce langage d'alliance. Qu'on retrouve aussi dans ce que Dieu exprime vers son peuple, un amour, une bonté sans fin. Et ce genre d'amour, cette bonté loyale, on ne le trouve que dans le Dieu de la Bible. Et Ruth semble, après avoir côtoyé Naomi, en entendant parler de cette bonté de Dieu, elle peut faire elle-même la différence entre ces dieux moabites, leur manière d'être, leur valeur, et puis ce Dieu de la Bible, ce Dieu de Naomi, qui exprime une bonté Et elle-même va illustrer, refléter ce même trait en Dieu envers Naomi. Avant d'aller plus loin, je vous demande, à vous qui écoutez, à vous qui regardez, avez-vous pris cette résolution comme Ruth, de dire un jour, le Dieu des chrétiens sera mon Dieu. Le peuple chrétien sera mon peuple. Je pense que Dieu nous conduit tous à un carrefour déterminant dans la vie, où nous avons ce choix à faire. Nous allons ressembler à Orpa, la vie normale, retourner à ce que nous connaissons, ce qui nous est familier, les dieux de ce monde, ou bien le choix de Ruth, de s'attacher au Dieu de la Bible, au Dieu chrétien. Et ça, qu'on soit enfant de chrétien ou qu'on ait un arrière-plan athée, c'est ce même carrefour déterminant. Mais j'espère qu'en comparant les dieux de ce monde et le Dieu de la Bible qui se manifeste dans ces histoires et puis aussi dans l'histoire de Noël, vous pouvez faire le choix comme Ruth a fait, de choisir de suivre ce Dieu, même si ça demande des sacrifices, un renoncement, un risque, un avenir inconnu. Non, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Faites le choix de Ruth. Donc Ruth, magnifique expression de foi, magnifique illustration de la bonté fidèle, loyale de Dieu. Mais revenons à Naomi. Et c'est son rapport avec la bonté de Dieu qui est plus compliqué. Alors voyons maintenant cette troisième scène du chapitre, une arrivée amère à Bethléem. Que penser de l'attitude de la foi de Naomi, qui même veut plus s'appeler Naomi, mais qui demande d'appeler Mara, ce qui veut dire amère ou amertume. Versets 20 et 21. Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? C'est vrai que toutes les circonstances dans sa vie sont contre elle. Deux veuves là, qui font route ensemble, qui n'ont rien, ce serait une question de survie pour elle. Alors, est-ce qu'il y a un langage de blâme? En tout cas, elle reconnaît que c'est le Tout-Puissant qui lui a fait tout ça. Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. L'Éternel me ramène les mains vides. L'Éternel s'est prononcé contre moi. Est-ce mal de parler comme ça? C'est sûr qu'elle est amère. C'est sûr qu'elle est affligée. Mais j'ai envie de dire qu'elle a bonne voix. Elle n'abandonne pas complètement sa foi. Déjà, ce qu'elle dit ressemble à ce qu'on va lire dans les psaumes, dans Job, lorsqu'on traverse des mauvais moments. Théologiquement, ce qu'elle dit vaut mieux ça que de dire que Dieu n'existe pas, ou que de dire que Dieu est impuissant contre toutes ces choses, et qu'il ne pouvait rien faire pour elle. Déjà, on voit que ce qui la pousse à rentrer à Bethléem, c'est d'apprendre que Dieu avait visité son peuple. Et il faut une foi, une humilité pour revenir à son peuple après ce départ qui a finalement été un échec. Comme ceux qui s'éloignent de Dieu, le jour qu'ils reviennent peut-être parmi son peuple, reviennent à l'église. Il faut une humilité, il faut une foi pour dire que voilà, peut-être il y aura des remarques désobligeantes, peut-être il y aura des regards bizarres, peut-être on va me poser des questions, peut-être on va me dire, ah, tu vois, je t'ai dit, mais tout ça... Dieu est bon, je prends le chemin du retour. Elle le fait. En chemin, elle invoque la bénédiction de Dieu et la bonté de Dieu sur ses belles filles. Elle prie pour elles, que l'Éternel vous donne des beaux maris, une bonne situation. Elle invoque l'Éternel. Donc je ne dirais pas qu'elle a perdu sa foi complètement. Mais c'est sûr qu'elle est remplie d'amertume. Et des fois dans la vie, on va trouver ça, c'est normal chez les chrétiens. La vie semble être contre nous. On ne voit pas la main de Dieu pour nous, on voit sa main contre nous, on ne comprend pas. Et elle donne expression à cette amertume comme d'autres personnes dans la Bible vont le faire. Et c'est sûr, ce n'est pas forcément le moment de lui dire, « Naomi, tout va bien, pourquoi tu ne chantes pas avec nous? Béni soit ton nom. Tu es bon, tu es bon, tu es bon tout le temps. Tu devrais chanter ça, Naomi. Tu devrais chanter, danser avec nous. » Et à ce moment, elle ne semble pas pouvoir le faire facilement. Ceci dit, l'amertume peut colorer notre vision. Et Dieu va aussi racheter, transformer Naomi. Ce livre est autant l'histoire de Ruth que l'histoire de Naomi. Et cette transformation se met en place maintenant, dans cette arrivée à Bethléem, qui finalement, pour nous lecteurs, n'est pas si amère qu'elle le pense. Parce que nous savons des choses. L'auteur nous signale plusieurs détails qui font que son arrivée n'est pas si amère. Peut-être qu'elle ne voit pas tout, parce que l'amertume, des fois, nous empêche de voir toutes les bénédictions et la bonté de Dieu. Mais quand elle dit, par exemple, « L'Éternel me ramène les mains vides », c'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Elle ne revient pas sans rien. Ses mains sont-elles complètement vides? Si elles marchent ensemble, si elles tiennent la main de Ruth, ses mains ne sont pas complètement vides. Et l'auteur nous le rappelle bien en verset 22. « Ainsi revint du pays de Moab, Naomi, et sa belle-fille, Ruth la Moabite. » Mais même les autres femmes de Bethléem ne semblent pas la remarquer tout de suite, hein, verset 21. Ils voient les femmes arriver à la ville, et les femmes disaient « Est-ce là Naomi ?» Donc, les femmes voient Naomi, mais Ruth, c'est étrangère. Ça ne compte pas vraiment. Mais Ruth est un trésor, bien plus que Naomi peut imaginer. Ruth, c'est la bonté de Dieu envers elle. C'est Ruth qui va, dans le chapitre suivant, aller moissonner et leur donner à manger. Mais Ruth, elle va moissonner et récolter dans la suite de cette histoire, bien plus que de l'orge. Elle va moissonner, récolter un mari, un enfant, un avenir pour Naomi, et même une place dans la lignée du Messie. Alors quand elle dit « L'Éternel s'est prononcé contre elle », là encore, ce n'est pas tout à fait vrai. Elle a l'impression, mais l'Éternel est en train de exaucer une prière qu'elle a faite dans le verset 9. Donc, si l'Éternel répond parfaitement à nos prières, on ne peut pas dire qu'il est totalement contre nous. Non. Elle dit au verset 9, à ses belles filles, à Ruth notamment, que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Eh bien, Dieu est en train d'exaucer cette prière en ramenant Naomi et Ruth à Bethléem, où, vous allez voir, Ruth va trouver un mari et une maison. Et donc, finalement, même la famine, même le départ à Moab, même ce départ douloureux, même le deuil, font partie de la bonté de Dieu envers Naomi. Il lui est en train de préparer plus qu'une survie, mais un grand honneur, une grande bonté. Mais de son point de vue limité, c'est sûr qu'elle ne peut pas voir ça à ce moment. Et on la comprend. Il est impossible pour Naomi de deviner comment tout ça fait partie de la bonté de Dieu dans sa vie. Même de son vivant, elle ne verra pas toute l'ampleur et la beauté de l'œuvre de Dieu, sachant que Noël, ce n'est pas encore pour 1300 ans. Et au-delà de Noël. Mais, Naomi ne va jamais fêter Noël. Elle ne va jamais fêter la crèche, la naissance de Jésus à Bethléem. Et pourtant, c'est elle, entre autres, qui déclenche cette histoire de la naissance d'un roi à Bethléem. Puisque Ruth sera grand-mère de David, du roi David, et ainsi jusqu'à Jésus. Donc, Naomi ne peut pas tout deviner, mais nous, avec les indices que donne l'auteur, même c'est beau la manière qu'il termine ce premier chapitre, ils arrivèrent au commencement de la moisson des orges. Après une famine, il y a une moisson qui commence, pour nous montrer la suite de l'histoire. De la même façon, il est impossible pour nous de savoir, dans notre quotidien, dans les détails aujourd'hui de notre vie, d'expliquer exactement toute l'étendue de la bonté de Dieu, de voir comment cette bonté va s'exprimer. On le mesure, on le voit, on s'attache à certaines bénédictions, Et ça nous donne assez pour remercier Dieu, pour savoir que Dieu est bon, et pour faire ce choix de Ruth, de s'attacher à lui au lieu des dieux de ce monde. Mais on ne saura pas tout ce que Dieu est en train de faire. Il va falloir s'attacher à cette vérité que Dieu est bon, que Dieu use encore de bonté envers nous ce matin, même quand la vie semble contraire. Mais comme Naomi, nous avons cette bonne nouvelle que Dieu a visité son peuple à Bethléem. Et c'est ce que nous célébrons à Noël, et je termine avec cela. Nous avons même plus que la nouvelle qu'il y a du pain à Bethléem, que Naomi avait pour le faire amener. Nous avons une nouvelle que Jésus a visité, nous a donné le pain de vie, nous a donné Jésus-Christ à Bethléem. Et si nous avons Jésus, ce sauveur, cette preuve de la bonté de Dieu, à la fois dans sa naissance, qu'il s'est incarné, qu'il a subi avec nous nos malheurs, nos souffrances, qu'il a vécu les mêmes épreuves que nous, aussi cette preuve de sa mort à la croix, de son amour, cette bonté hyper loyale, hyper fidèle, cette bonté d'alliance qui dit « jamais je te quitterai », voilà ce qu'il nous a prouvé à la croix. Eh bien, avec ça, nous pouvons naviguer et avancer sur le chemin de la vie, sachant que Dieu est bon. Prions pour terminer. Seigneur, nous te remercions de ces belles histoires, elles sont si bien écrites et chaque détail est riche. Et nous te remercions de ce que tu nous les donnes pour nous prouver ta bonté, pour nous prouver que tu es un Dieu fidèle, loyal envers ton peuple. Nous savons que nous allons traverser par les moments où ça ne semble pas le cas, mais nous te prions que tu nous donnes cette encre, cette foi qui s'ancre en toi et qui sait que même si nous ne voyons pas, ta bonté est en train de se manifester. Un jour, nous allons voir une bonté bien au-delà de tout ce que nous avons pu imaginer ou penser, comme Naomi a découvert elle-même. Nous te prions de nous donner beaucoup de joie dans ce temps de Noël, beaucoup de reconnaissance envers ta bonté. Tu vois que notre monde, notre pays, encore traverse des moments sombres et nous te prions que tu nous rappelles, comme dans cette histoire, que dans des vies ordinaires, des vies simples comme les nôtres, des vies de foi, tu te manifestes et tu fais connaître ton salut. Et nous te remercions. Merci pour ce temps de culte que nous avons vécu ensemble, que ce soit ici ou à distance. Bénis chacun de nous ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Amen.